Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Cosette de Boudoir. Bonsoir Camille.
Bonsoir Hélène, bonsoir à toutes et à tous. Nous nous retrouvons donc ce soir pour une émission intitulée « Longueur d'onde ». Et oui, chère auditorice, c'est bel et bien une émission sur les femmes et la radio. On a décidé de s'intéresser à ce thème car la radio offre un espace aux femmes qui leur permet de se faire entendre, au propre comme au figuré, dans un environnement sonore, public, mais qui est largement masculin. En effet, l'histoire des professionnels de la radio, à l'antenne ou dans les coulisses des émissions, est un domaine encore peu exploré. C'est vrai que cet environnement sonore, il a longtemps été dominé par les hommes, et les femmes ont mis du temps à se forger une place à la radio, ou plutôt, on a mis du temps à les rendre visibles à la radio. Pourtant, dès l'origine de la radio, elles ont été des auditrices assidues et elles ont même contribué à façonner l'histoire de ce média et c'est ce qu'on va voir ce soir. Parce qu'elles ont joué un rôle fondamental dans le développement général de la radio, de ces pratiques de radiodiffusion qu'elles ont fortement influencées. En fait, la radio a permis de créer des liens, d'estomper les frontières entre la sphère publique et la sphère privée, en s'adressant aux femmes au foyer, aux travailleuses, aux consommatrices, aux citoyennes. Donc, une spéciale femmes et radio. On s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de travaux de recherche historique sur ce sujet, qui ont permis vraiment de mettre au jour des histoires marginalisées, souvent passées sous silence. Mais aussi, ces recherches, elles ont observé des évolutions majeures qui ont marqué la programmation pour les femmes et qui ont aussi marqué l'histoire des femmes dans ce média-là.
Pour cette spéciale Femmes et Radio, Camille, on va reprendre les traditions. On va commencer par peut-être une petite liste d'expressions. Qu'est-ce que tu nous as concocté ?
Eh bien, comme on parle de métier, je vous ai concocté toutes les expressions qui désignent les métiers du son.
Tu nous as pas trouvé le nom pour dire animatrice enrhumée.
Non, pas pour cette fois-ci.
Animatrice.
Annonceuse.
Bruiteuse.
Chroniqueuse.
Chef opératrice.
Dame de l'info.
Directrice d'antenne.
Doubleuse.
Documentariste.
Fipette.
Journaliste.
Monteuse.
Matinalière.
Morning woman.
Lectrice de nouvelles.
Oratrice.
Productrice.
Présentatrice,
programmatrice,
podcasteuse,
preneuse de son,
rédactrice,
réalisatrice,
reporter,
régisseuse,
technicienne son,
script,
speakerine.
Merci Camille pour cette liste d'expressions.
Donc une émission en deux parties, on va d'abord s'intéresser aux premières voix et puis ensuite on verra comment ces ondes radiophoniques sont entrées en mutation. Pour que les femmes puissent s'exprimer.
Mais d'abord, un peu d'histoire.
Alors, très rapidement, la radio, c'est quoi ? Ben, c'est le produit d'une succession d'inventions et d'avancées technologiques qui, finalement, ont commencé au 19e siècle avec l'invention du Morse en 1841.
Avec des ingénieurs allemands comme Heinrich Rudolf Hertz.
Voilà. Et puis ensuite, à la fin du 19e siècle, les premiers récepteurs et le principe de l'antenne. Et puis après, il faut partir du côté du Canada pour trouver l'invention de la transmission par modulation d'amplitude, les fameux AM, en fait, sur vos postes de radio. Finalement, ce n'est qu'en 1914 qu'on va avoir la première émission de radio régulière et elle est belge et elle est diffusée tous les samedis à l'époque. Pour la France, il faudra attendre les années 20-30 avec la naissance de Radio Tour Eiffel en 1921. Et c'est à ce moment-là que les récepteurs radio grand public commencent également à voir le jour.
Merci. Un siècle de radio en 10 secondes. Voilà. La radio, c'est quand même l'outil du quotidien, dès le début en fait.
Oui. Surtout dans ces années 20-30, ça va devenir une technologie du quotidien. Elle va entrer dans les foyers français dans cette entre-deux-guerres comme une pratique collective. On l'écoute de manière collective. Elle est alors émise de manière discontinue et s'écoute à des heures spécifiques. Tu as rendez-vous pour écouter ton émission de radio. Et donc, dès le début, les femmes sont des voix pour les feuilletons et les fictions radiophoniques ou des émissions enfantines ou encore musicales. Et ce sont souvent des comédiennes chanteuses, en fait, qui ont déjà, dans leur métier, une pratique de la voix. Alors, quelques noms comme ça, on a Lise Elena, Géraldine Gérard ou Jacqueline Joubert qui vont interpréter des feuilletons ou prêter leur voix pour annoncer des émissions de musique, etc. Mais souvent, elles sont anonymes. Et en fait, ça permet de créer une sorte d'artefact. Et ça, c'est quelque chose qui va beaucoup marquer l'histoire de la radio. C'était le cas notamment aux États-Unis avec False Cow Girl dans les années 30 où on a plein de speakerines, mais on ne connaît pas leur nom.
Et est-ce que ça, l'excuse, c'est un peu de dire ça permettra à chacun justement de s'identifier?
Oui, puis je pense aussi surtout que c'est parce que c'est des femmes, en fait. On s'en fout, quoi. Elles sont là pour prêter leur voix et c'est tout, quoi. En même temps, les femmes deviennent la cible d'émissions dites féminines, comme « La femme et le foyer », hein, c'est très clair, le contenu de l'émission, ou « À vous, mesdames ». Et ça, c'est des émissions qui vont plutôt être dans l'après-guerre, l'après-seconde guerre mondiale.
Pourtant, dès le début, voilà, on voit qu'il y a des pionnières qui sont nommées, elles, pour le coup.
Oui, dès le début, on a plusieurs femmes qui ont osé ouvrir des portes qui leur étaient fermées. Et c'est surtout vrai au Québec, où dès le début du XXe siècle, on a deux grandes présentatrices radiophoniques, hein, Idola Saint-Jean et Thérèse Casgrain, qui utilisent la radio comme porte-voix pour la cause féministe. Donc par exemple, il y a une émission qui s'appelle « L'actualité féminine » en 1932 et qui est vraiment une émission d'information publique sur la réalité des femmes qui les invite à l'engagement social. Et c'est Idola Saint-Jean qui en est l'instigatrice de cette émission. Alors c'est une émission québécoise, hein. Et pareil, Thérèse Casgrain, elle, qui est chef d'un parti politique au Canada et fondatrice de la Ligue des droits de la femme, hein, en 1937, elle anime l'émission Femina, qui est vraiment une radio, une émission, pardon, qui parle de féminisme pendant plus de 30 ans. Et donc, grâce à leurs émissions, ces deux femmes vont susciter des débats d'idées et agissent vraiment comme un vecteur de conscientisation auprès des femmes qui, jusque-là, étaient peu informées de leurs droits et de leur pouvoir en société. C'est vraiment un moyen de transmettre et de filer de l'info.
Du coup, tu as l'impression qu'au Québec, il y avait pas mal de pionnières?
Oui, on a beaucoup d'exemples de femmes qui ont été à l'avant-garde dans ce milieu radiophonique. On a Marcelle Barthes, qui va être la première femme à occuper un poste d'annonceuse. En 1941, on a Michèle Tessel, qui est la première femme à présenter le radiojournal. Voilà, on a des pionnières du journaliste, notamment Judith Jasmin, qui est la première canadienne correspondante à l'étranger. Et elle va vraiment faire du journalisme politique. Donc, c'est même une voix féminine, hein, c'est la voix de Claire Martin qui va annoncer aux Canadiens la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, au Canada et au Québec, les femmes dans ce média radiophonique vont être très présentes. Mais attention, à l'époque, les femmes mariées ne peuvent pas animer.
Souffrir pour être belle, il fallait des punchers. J'suis venue pour troller tout ce hip-hop shit. Mixer moite-moite, c'est comme de l'époxy. Féminité 101, sérieux, je l'ai botché. Sorti de la gauche, rap juste en mono. Qu'est-ce que ça vaut sous le bob du dolo? Y'a-tu des têtes dans l'XL polo? Pour des indices, ben clique sur follow. Ils nous regardent proche, ça fait qu'on est instable. Le programme est poche, faut qu'on le désinstalle. Plus de voix dans ma tête que d'abonnés Insta. Les stéréotypes, j'en accumule un stack. Des pronoms, j'en ai pas, qu'est-ce qu'il y a dans mes bottes? Yeah, j'ai le mal de l'époque. J'y vais pour la coupe, mais des fois elle déborde. Dans des plays à des boys, si ça les fait des buzz. Genre, c'est un filet, j'parle pas de soccer. Me suis fait crier, t'es un cocksucker. C'est pas nous qui a fucké les kids. Les rôles qu'ils nous vendent, il faut qu'ils les kids. Ils sont back, 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 back. Pour tous, c'est nous les fouteurs de main. Ils sont back, 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 back. Équipés comme des shooters de main. Ils sont back, 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 back. Pour tuer leur femme et leur propre kid. Ils sont back, back, back. Aux autres que les cops kill. Backlash. Back, 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 backlash. Back, 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 backlash. Back, 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 backlash. Back, 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 back. Il était plutôt pour le comeback, dude. C'est fou les hashtags, comment ça colle partout. J'ai la tête rose et puis les combat boots. À ta place, j'ferais pas de bad move. Si ils sont de Mars, nous on est d'une autre galaxie. Faut les tenir tight comme une prise d'escalade. Dans les voies d'un galop, ils venaient d'être call-up. Pour des trucs salaces, on work d'un calax, yeah. Toutes les agresseurs, on lisse tout. Les colons, on lisse cool. Privilège, on laisse tout. J'voudrais voudrais vraiment pas voler le scoop. Il faut accuser le coup, mais ta blonde est laisse tout. Fais-ci pis fais-ça, comme un faux dress-up. Tout est oppressant, ils nous droguent, éduquer là c'est pressant. C'est comme indécent de se faire donner des coups vers après ça. Ça court après le sexe, money, power. Pendant que nous on lavait les towels. Personne qui nous ressemble à Ottawa. On met le dower jusqu'à la drum tower. Ils sont back, 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 back. Pour tous nous les foutons de main. Ils sont back, 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 back. Équipés comme des shooters de main. Ils sont back, 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 back. Pour tuer leur femme et leur propre kill. Ils sont back, 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 back. Puis c'est même pas eux autres que les cops kill. Back, 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 back.
C'était Calamine Backlash et vous écoutez Cosette de Boudoir qui est sur la même longueur d'onde.
On va voir maintenant que les femmes vont conquérir la radio, mais que c'est quand même discret.
Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de formats ou de genres de programmes qu'on considère presque comme allant de soi, notamment les feuilletons, les émissions de débat, qui à la base ont été conçus pour une audience féminine. De même, toutes les émissions diffusées en journée, on les qualifiait de féminines. Hein, on va dire, là, on est dans le début de la Seconde Guerre mondiale et l'après-Seconde Guerre mondiale. Et puis, finalement, ces émissions-là ont vite été transformées en espace pour les femmes, puisqu'elles se sont mises à aborder des problèmes et des préoccupations auxquelles étaient confrontées les femmes, notamment, et ça, c'est très vrai dans les années 30 et 40 aux États-Unis. On a aussi le programme britannique Women's Hour qui était diffusé sur la BBC en 1946, qui avait vraiment pour cœur de cible la femme au foyer. Et là, au début, l'émission met d'abord l'accent sur les rôles, les responsabilités domestiques. Puis après, au fur et à mesure, on va plutôt glisser vers leurs droits politiques et sociaux. Donc, on voit comment elles se sont accaparées en fait, des créneaux pour finalement faire passer leurs idées et faire évoluer leurs conditions. Elles vont aussi être force de proposition pour développer de nouveaux formats, notamment les documentaires sociaux. On reste encore là sur le sol britannique et on va parler d'Olive Chapley, qui intègre la BBC en 1934. Et en fait, elle, c'est la première à utiliser les camionnettes d'enregistrement mobile pour sillonner la région et interviewer les gens chez eux, dans la rue ou au travail.
Elle a 24 ans hein, quand elle rentre à la BBC. Elle est toute jeune hein, quand elle propose ça.
Et donc, c'est vraiment, ces documentaires étaient des avant-gardistes d'un point de vue technique, parce que c'était la première fois qu'on sortait des studios, et puis aussi par la thématique, parce qu'elle va vraiment avoir un côté très social. Elle va notamment avoir une émission qui s'intéresse aux femmes de mineurs et à leur quotidien.
C'est vrai que je vois plutôt cette radio, cette antenne-là, comme voilà, typiquement très, très masculine. On la rattache même à des périodes de guerre et tout.
Oui, c'est vrai que les mémoires officielles et collectives ont réalisé une sorte d'identification des voix masculines à la BBC pendant la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, il y avait des radiodiffusions proprement féminines qui s'organisaient en parallèle avec la fameuse figure de la speakerine, qui était une sorte d'alter des émissions de speakers masculins. Juste pour vous donner un ordre d'idée, en 1939, en France, on compte 5 millions de postes radio récepteurs pour une population de 41 millions. Donc on est vraiment sur une écoute collective, en fait. Oui. Chaque foyer n'a pas un poste de radio. Et puis, on est aussi sur une écoute plus urbaine que rurale. Alors, sur la BBC, la première émission féminine est émise le 19 juin 1940. Et là, elle traite des problèmes des réfugiés, plus précisément de l'exode des enfants en France. Alors, ces émissions de la BBC, elles s'adressent clairement aux femmes. Elles sont réalisées par des femmes et elles s'interrogent ou elles discutent en fait des problèmes anglais et français auxquels les femmes peuvent être confrontées. Et c'est aussi pendant cette Seconde Guerre mondiale que les premières femmes correspondantes de guerre ont fait leur apparition. On pense à la journaliste américaine Betty Wasson qui, elle, s'est rendue en Europe pour le compte de Transradio Press Service. Hein. C'était une agence de presse qui fournissait des infos à plein de radios différentes. Et elle va notamment couvrir les combats en Norvège et en Grèce. Mais Betty Wasson, elle a dû aussi lutter contre les préjugés de l'époque parce qu'on considérait que la voix des femmes n'était pas adaptée à ce type d'information. Mmh. Comme s'il y avait des voix pour annoncer les conflits graves, quoi. Mmh. On a dans ses premières correspondantes de guerre, on parlait de la BBC, on a aussi Audrey Russell, hein, puisqu'elle s'est principalement intéressée au vécu des civils. Et elle réalise pas mal de reportages et d'interviews entre 1941 et 1945 en se déplaçant vraiment sur les terrains.
Là, on évoque pas mal les radios nationales, mais peut-être qu'il se passe aussi d'autres choses à ce moment-là.
Oui, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on voit émerger cette idée que la radio pourrait rassembler les femmes au-delà des frontières nationales. Et c'est ce qui a été à l'origine de la création de l'Association internationale des femmes de radio en 1951. Et cette Association internationale des femmes de radio, elle existe encore aujourd'hui, et son objectif premier est de promouvoir la paix en rassemblant les femmes dans les secteurs des médias et en partageant des idées et des informations. C'est dans ces années-là aussi, en France, qu'on va avoir la première femme à diriger une station de radio en 1953, et elle s'appelle Agathe Mella.
Cash, card, PayPal, or write me a check. It's time to pay off your debts. I don't want that shit, find no 30-day net. If you don't have my breath, then I'm ringing your neck. You've been dodging my calls, acting perplexed. Thinking my patience is up for the test. Wanna play games, well, go be my guest. I'll be right at your door, you ain't getting no rest. Southern Bell raising hell in your city street. You can keep the sign for it, cause I got no sympathy. I'm on the edge, no stability. You don't get the picture, so here's the imagery. See, I'm on your ass like the back of your jeans, and I'm bound to choke Sammy like it's WWE. This is a stick up, so do as I please. Put the money in the bag and do it rapidly. With the money in my hand right now. Your honor. The money in my hand right now.
Il faut dans Cosette de Boudoir Stick Up pour une émission spéciale Longueur d'onde. Camille, on arrive à la deuxième partie de l'émission. On va voir que les ondes sont en mutation.
Oui, cette période voit l'élargissement de l'offre des programmes avec une refonte des radios et des statuts de la RTF qui devient ORTF en 1964. On a inauguré la maison de la radio en 1963. Et donc là, ça va vraiment être marqué par l'émergence de nouvelles figures féminines derrière les ondes et qui vont explorer des formes et des thématiques inhabituelles jusque-là, telles que le quotidien des femmes ou l'intimité du couple.
Bah forcément, années 70, féminisme, on voit que peut-être certains mouvements féministes... vont changer justement la place des femmes dans la radio.
Oui, on peut dire que cette évolution des programmes radio pour les femmes est étroitement associée au mouvement féministe des années 70. Alors on a France Inter hein, qui va lancer son émission Madame Inter en 1966. Et c'est une émission avec la participation d'un auditoire chaque après-midi de la semaine sur des sujets intéressant les femmes au quotidien. Et c'est produit et présenté par Annick Beauchamp. Et je vous propose d'en écouter un petit extrait.
Madame Inter. suis mariée, j'ai 2 enfants, j'ai 26 ans. Eh bien voilà, Madame Inter, c'est moi, tout simplement. Comment suis-je arrivée là? J'avais très envie de connaître France Inter, l'équipe de France Inter, Roland Dordain qui dirige cette équipe, parce que tout le monde sait qu'il se passe quelque chose à France Inter. Remarquez que l'ORTF, je connaissais déjà, puisque j'avais travaillé en Algérie lorsque mon mari faisait son service militaire, à France 5, où je faisais de la radio et de la télévision, et puis ensuite j'avais travaillé au service de la recherche de la RTF. Enfin bref, j'avais envie d'aller à France Inter. Alors un jour, j'ai pris mon courage à deux mains, et je me suis dit, je vais aller voir Monsieur Dordain. En fait, d'ailleurs, je ne l'ai pas vu, j'ai vu son plus proche collaborateur, Jacques Tournier. Et après une très longue discussion, Jacques Tournier m'a parlé de Madame Inter. Et je dois dire qu'à la minute où il m'a parlé de Madame Inter, j'y ai cru tout de suite, intensément.
Oui, on est dans un esthétisme sonore très années 60. Hein.
Ouais, c'est très 70 tout ça. Et dès 67, on va pouvoir... à entendre une émission qui est devenue culte ensuite, c'est celle de Ménie Grégoire.
Oui, alors l'émission de Ménie Grégoire, elle commence en 1967 sur RTL. Mais avant de s'intéresser à l'émission qu'elle anime, on va faire un petit zoom sur qui est Ménie Grégoire. Alors Ménie Grégoire, elle est journaliste dans la presse écrite après des études de lettres et d'art. Elle est d'abord invitée à la radio en 1964 pour présenter son livre « Le métier de femme » et parler d'émancipation des femmes. Et comme ça se passe bien, bah on va lui proposer d'animer une émission de 1967 à 1981. C'est le principe un peu de la radio-réalité. Alors, on va tout de suite le dire, Ménie Grégoire, c'est plutôt un féminisme très très modéré. Alors, son émission, Allô Ménie, dure de 30 minutes à 1 heure selon les périodes et a lieu chaque jour en direct en début d'après-midi. C'est toujours le même principe. D'abord, il y a la lecture et le commentaire d'une lettre. Puis ensuite, elle répond en direct à des appels d'auditeurs ou d'auditrices durant 6 à 9 minutes. 90% de ces courriers ont été écrits par des femmes, toutes classes sociales confondues. Et elle a environ une équipe de 5 personnes, où dedans il y a des psychologues, des assistantes sociales, pour dépouiller le courrier et choisir voilà, la lettre qui va être lue. À partir de 1973, on a une seconde émission d'une demi-heure qui est ajoutée hein, et qui s'appelle « Responsabilité sexuelle ». Donc là, tu vois bien hein, l'influence du mouvement féministe. Mmh. Et finalement, cette émission, la « Responsabilité sexuelle », c'est considérée aujourd'hui comme la première émission sexuelle radiophonique dont la vocation principale était une éducation à la sexualité. C'était animé par Ménie et un homme qui était différent en fonction des émissions.
Ouais. Du coup, bah, là, clairement, la radio est plutôt pionnière par rapport à la télévision. Je pense qu'on ne parle pas du tout de sexe dans les émissions télé grand public dans ces années-là.
Et ça, on le voit bien dans les 3 thématiques qui prédominent dans ces émissions de Allô Ménie. On a d'abord, au début, c'est plutôt des questions qui vont s'articuler autour du couple, du foyer, de la famille, du rôle de chacun et chacune au sein de la famille. Puis après, on va plutôt avoir des questions qui sont relatives à la sexualité et à la santé sexuelle. Et enfin, les dernières années de son émission, on va avoir pas mal de sujets qui portent sur les difficultés économiques et le monde du travail. Il faut savoir que Ménie Grégoire a reçu quand même en 14 ans plus de 100 000 lettres d'auditeurs et d'auditrices. Donc c'était une émission qui était particulièrement suivie et qui avait vraiment...
Elle crée de l'interaction du coup, parce que quand même 100 000 lettres, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui n'écrivent pas non plus, donc ouais. Ça c'est vraiment très très populaire. Après, l'émission est restée célèbre, Ménie Grégoire notamment pour une émission qui a dérapé complètement.
Oui, en fait Ménie Grégoire est restée célèbre pour avoir produit finalement le Stonewall radiophonique français. En fait, c'est l'émission du 10 mars 1971 qui est consacrée à l'homosexualité. Alors, je mets des gros guillemets parce qu'elle est intitulée comme ça, hein, l'émission à l'époque. L'homosexualité, ce douloureux problème. Et cette émission est restée célèbre parce qu'elle est interrompue par des militantes du commando saucisson du MLF. Alors le commando saucisson du MLF, c'est une idée de Françoise Daubonne qui avait dit, bon, si on arrive armé, on va se faire c'est pas possible. Donc elles avaient utilisé des saucissons cachés pour faire croire qu'elles avaient, qu'elles étaient armées. Et donc elles vont perturber l'émission qui est en direct dans la salle Pleyel. Les manifestants et les manifestantes ont jugé homophobe le ton de l'émission où intervenaient des autorités morales, comme un prêtre, hein, le père Guincha, qui lui va avoir des propos sur la pitié de l'Église par rapport aux homosexuels, un psychanalyste et Audrey Baudry. Audrey Baudry, à l'époque, c'est pas n'importe qui, c'est le fondateur d'Arcadie, la première revue homosexuelle. Ces manifestants et ces manifestantes vont remettre en cause l'approche pseudo-psychologique et pseudo-médicale qui est véhiculée dans les propos des intervenants. Cet épisode est hyper important parce que c'est l'épisode qui va fonder finalement le phare et les Gouines Rouges. Le phare, Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire.
Qui est présent ?
Alors, on le sait parce qu'elles ont été photographiées à la sortie de la salle. On a Mafra, c'est Marie-Françoise Brumeau, Christine Delphi, Monique Witting, Elisabeth Salvaresi, Anne-Marie Forêt, Antoinette Fouque, et puis il y a celle qui tenait l'appareil photo, c'est Catherine Dedon, qui était aussi dans ce commando MLF. Alors, je vous propose qu'on s'écoute, parce que l'émission est en accès, qu'on s'écoute
Un petit extrait
de ce Stonewall radiophonique.
Je voudrais donner la parole à M. Baudry, qu'on n'a pas encore entendu, la revue Arcadie. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne donnerait pas la parole à M. Baudry? On l'a demandé de venir pour témoigner, justement. Allez-y.
Il est bien difficile de répondre valablement à tout ce qui a été posé comme question.
Allez-y, continuez, on vous entend.
Mais je voudrais surtout dire ceci. Je voudrais aussi bien le dire à ceux qui sont dans cette salle qu'au paraît-il quelques 2 millions d'hommes et de femmes de France qui en ce moment écoutent cette émission à la radio chez eux. Mesdames, messieurs, autour de vous, au milieu de vous, dans votre famille, dans votre entourage professionnel, dans votre village, partout, il y a des homophiles que vous ne connaissez pas. Il peut y avoir le préfet de votre département, il peut y avoir le curé de votre paroisse, il peut y avoir votre frère. Parfaitement.
Oh là là, écoutez, je suis un peu désolée du bruit de la salle qui ne nous permet pas de continuer. Vous voyez à quel point le débat est passionné. Mais nous continuons quand même bravement. Vous avez parlé tout à l'heure d'un problème religieux. Je voudrais que le père Guincha donne tout de même, réponde, on l'a presque mis en cause. Au fond, qu'est-ce que font les prêtres devant un homosexuel? Qu'est-ce que vous faites quand on vient vous trouver en vous disant « je suis homosexuel » Qu'est-ce que vous leur dites? Est-ce que vous les rassurez aussi? Vous voulez répondre?
Je suis un petit peu gêné pour répondre à cette question. Comme prêtre, je fais partie d'une église et j'essaie d'être fidèle à un Dieu qui a donné un certain modèle de vie qui n'est pas imposé, mais pour être de la maison, il faut tout de même marcher dans le sens de ce modèle de vie. Après cela, il y a le fait concret. Je rejoins tout ce qui a été dit quand on a parlé de la souffrance de certaines situations. Alors là aussi, moi j'accueille beaucoup d'homosexuels, mes confrères également, qui viennent parler de leur souffrance. À cette souffrance-là, on ne peut pas être insensible.
Ne parlez plus de votre souffrance. Oui, écoutez, alors là je dis qu'il y a une chose tout à fait extraordinaire qui se passe, puisque la poule a envahi la tribune, et que des homosexuels,
liberté,
des homosexuels de tout ordre, hommes et femmes.
La liberté.
Oui, donc on voit bien cette fin d'émission qui lui échappe en fait complètement. Et elle-même, elle le dira plus tard dans ses mémoires. C'était pas assez bien préparé. Et puis surtout, elle aurait pas dû le faire en direct. Mais c'est aussi révélateur d'une époque à ce moment-là, en fait, où il y a tellement de choses qui se bousculent de partout que les mentalités changent, etc., et que les modalités d'action vont être assez aussi radicales.
Et ça,
1971, Camille.
Et oui, 1971, c'est la création de la radio FIP, France Inter, Paris, qui fait figure d'OVNI dans le paysage radiophonique. C'est la première fois dans l'histoire de la radio qu'une antenne est menée presque exclusivement par des femmes qui porteront plus tard le surnom de Fipette. Alors, c'est pas super positif, hein, ce surnom de Fipette. Déjà, quand t'as toujours être, c'est jamais bon quand dans un truc.
Alors, ce douloureux suffixe.
Voilà, ce douloureux suffixe, pourrait-on dire. En fait, ces Fipettes, elles ont marqué l'histoire de la radio. C'est surtout leur voix qui a marqué l'histoire de la radio. Parce que ces voix-là, elles sont acidulées, modelées. Légère sophistication, un peu comme une voix d'hôtesse de l'air, avec une bonne dose d'humour, avec un peu de fantaisie. Et c'est le style de l'animatrice Chris Graffiti qui va vraiment donner cette couleur d'antenne et qui va en faire son succès. Mmh. Et du coup, toutes les autres animatrices ont cette voix qui est dans un même moule sonore qui a permis de rendre la couleur d'antenne de FIP bien identifiable. Mmh. Mais d'un autre côté, ça a aussi dilué l'identité hein, de ces animatrices qui sont longtemps restés anonymes. En fait, à l'antenne, t'entends jamais leur prénom. Alors, comment c'est né cette histoire? Toi, tu vas nous l'expliquer.
C'est quelqu'un qui travaille à France Culture, donc j'aime bien que je me la pète un peu. En fait, apparemment, donc, comme on disait, c'était France Inter Paris à l'origine, FIP, et on dit qu'on prenait qu'il fallait des voix de femmes hyper posées et calmes pour justement détendre l'automobiliste parisien tendu dans les bouchons en fin de journée. Donc pour moi, c'est très macho comme façon de voir.
Oui, parce que FIP se décrit hein, une radio d'environnement. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, les ondes publiques sont fortement jarrées et marquées par des empreintes vocales du baron. Hein, c'est ce qu'on appelle le système ABC. A pour José Arthur, B pour Pierre Boutellier et C pour Jacques Chancel. C'est vraiment ces voix, ces timbres-là. Et donc l'arrivée de ces voix féminines un peu suaves, ça va bouleverser le paysage sonore de ces radios.
En même temps, ça fait très radio speaker parce qu'il n'y a pas de contenu, elles annoncent quasiment que des titres en fait, là où les autres c'est quand même des animateurs qui font des entretiens au long cours.
Oui, elles annoncent aussi la météo hein. Attends,
ouais, c'est vrai,
il va faire beau. Donc c'est vraiment ça en fait, elles installent une relation érotique d'écoute entre l'auditrice et les animatrices, on pourrait même dire entre l'auditeur et les animatrices parce que c'est l'objectif hein, à l'époque.
C'est ça.
En fait, quand on écoute vraiment les voix de FIP, à cette époque-là, on est vraiment dans la typologie de la voix de charme. Et ses composantes sont connues, c'est une intensité atténuée, un tempo ralenti, un adoucissement des consonnes et une présence plus grande du souffle. Mmh. On leur disait clairement hein, de ne pas parler brutalement, de ne pas trop scander leurs syllabes et de parler doucement. Le rythme, il est arythmique. On a une courbe intonative qui se module un peu comme une caresse sonore par palier ondulant.
Bien sûr, Camille.
Voilà, vous écoutez Radio Cosette de Boudoir. Voilà, c'était des voix comme ça.
C'est des rôles de speakerine, en fait.
Oui, c'est exactement ça. On retrouve ce rôle de speakerine des années 30, en fait, qui sont cantonnés à l'annonce des programmes. Sauf qu'il y a un ton un peu plus libre parce qu'on est dans les années 70.
Mais oui. Vous êtes bien sur 514 mètres onde moyenne. Ne vous étonnez pas si vous ne recevez pas votre programme habituel. C'est aujourd'hui la générale de France Inter Paris 514 mètres. Ce que sera France Inter Paris 514 mètres? Eh bien, découvrez-le en nous écoutant.
Ça te calme, Camille?
Non, moi, je suis désolée, il n'y a que la voix de Fabrice Drouel qui me calme.
Ah,
je te jure, je m'endors sur la voix de Fabrice Drouel.
Dans les meurtres.
Voilà, exactement.
Super.
Ça me détend, moi.
Mais qui sont ces jeunes femmes qui opèrent comme dans des films de série B? Des militantes d'extrême gauche ou d'extrême droite? Des droguées? Loin de là.
Longueur d'onde, une autre histoire de la radio par Cosette de Boudoir.
Alors, il y a la radio, et puis ensuite, il y a la radio la nuit.
Venons-y, la radio la nuit.
Donc les émissions nocturnes commencent à être mises en place dans les années 50, dans le but de tenir compagnie à celles et ceux qui ne dorment pas. Et là aussi on va retrouver ce côté voix basse, chuchotement des confidences, soupir de séduction. Alors on est vraiment sur s'accorder aux multiples facettes de l'imaginaire nocturne.
Oui, mais les hommes peuvent le faire. Les hommes peuvent prendre cette voix enveloppante qui va te calmer pour la nuit.
Ces programmes nocturnes, ce n'est pas une invention des années 50. Dès les années 40, aux États-Unis, on a ces programmes où une fille solitaire parle d'amour aux auditrices nocturnes.
The Lonesome Girl.
Et durant les années 70, plusieurs femmes vont être recrutées par des stations françaises pour animer des émissions nocturnes. Si le contenu n'est pas nécessairement érotique, ces voix féminines sont en revanche érotisées. Par exemple, on a Sophie Garel qui animait une émission de la nuit dont la voix est commentée en 1974. Elle a la voix qui convient aux longues soirées d'été, chaude, grave, douce, rien coquine. Les auditeurs de la nuit aiment l'entendre raconter des petites histoires sur le ton de la confidence. Sophie Garel peut avoir la voix d'une poupée, celle d'une dame de petite vertu, celle au timbre surnaturel d'un répondeur téléphonique. Ouais, c'est hyper genré hein, comment sa voix est définie.
En même temps, t'es allé chercher la citation dans Télé 7 jours, 1974, tu t'attends à quoi ?
Sur France Inter, on a Madeleine Constant qui officie la nuit entre 72 et 75. Et elle séduit ses nombreux auditeurs avec ses lectures érotiques et son timbre de voix particulier. D'ailleurs, elle commençait chaque émission en tutoyant son auditoire. Et avec cette formule, « Ma joue contre ta joue et ma voix dans ton oreille comme sur un coussin ». Non, on n'aurait jamais pu faire un lancement comme ça à Cosette.
Non, franchement, elle abuse. Oui, quand on pense à ces émissions de radio nocturne, la plus célèbre, c'est Macha Béranger.
Oui, avec son émission Allô Macha, hein, qui est lancée en 1977 sur France Inter. Et en plus, c'est assez novateur parce que c'est vraiment un programme de dialogue téléphonique. Et dès le lendemain de sa première diffusion, hein, là aussi, on va commenter sa voix. Voilà que nous sort du poste une voix de dame langoureuse, rieuse, fondante, inamourée, molto, un rien d'aéroport. Le téléphone déborde, c'est normal, elle a une voix de liane qui s'enroule à l'arbre, de ruisseau qui dégringole la colline. Les auditeurs la félicitent et flirtent avec elle. Les hommes l'aiment, elle joue de sa voix instrument de musique. Macha va drainer les fantasmes des auditeurs la nuit. Et ça c'est Charlie Hebdo qui nous dit ça le lendemain de la première émission.
Eh bien, bonsoir, Macha Béranger avec vous jusqu'à 2h du matin.
Allô, Macha, ça va être une émission de longue durée. Elle va exister pendant près de 30 ans, jusqu'en 2006. Peut-être la longévité et le succès de ce programme tient beaucoup à la voix grave de son animatrice. Dans les appels, il n'y a pas du tout d'appels traitant de problèmes politiques ou sociaux, comme on pouvait le retrouver par exemple avec Allô Méni, où là, il y avait des problèmes économiques aussi qui étaient abordés.
Le point commun, c'est qu'on entend les auditeurs dans ces émissions-là, là où bah, généralement, enfin, voilà, c'est des créneaux très dédiés où on entend les auditeurs à la radio.
Oui, ces émissions-là, elles sont particulières parce qu'on a une multitude de voix, et notamment, comme tu le soulignais, celles des anonymes qui appellent pour se confier. C'est ce qu'on appelle des émissions paroles de divan. Et même Macha va appeler ses auditeurs, elle va leur donner un surnom, elle appelle ça la famille des sans-sommeil.
Donc c'est le début de la libre antenne.
Oui, et ça va vraiment être l'essence de la radio nocturne. Je pense aussi à Laure Adler, hein, avec les Nuits Magnétiques, qui ont là aussi des émissions nocturnes animées par des femmes, et où il y a des échanges avec les auditeurs, même si Nuits Magnétiques, c'est plutôt avec des intellectuels. Mais cette libre antenne, c'est ce qu'on va retrouver principalement sur les ondes des radios pirates, nées à la fin des années 70.
Dans l'opposition aux radios d'État.
Oui, parce que en fait, ces radios d'État contrôlaient jusqu'alors hein, la majorité des bandes. Et souvent, ces radios pirates émettent depuis des eaux internationales et proposaient des programmes plus proches des attentes des jeunes. On pense à Radio London ou Radio Caroline. Il y avait Radio Alice aussi à Bologne. Et là, on a des diffusions nocturnes, tout comme les radios parisiennes pirates de l'époque, Radio Ici et Maintenant. Et ouais. Là, on a même aussi des libres antennes. Alors, c'est très compliqué de retracer l'histoire de ces radios pirates, parce que souvent, les animateurs et animatrices avaient des pseudos, les bandes n'ont pas été gardées, parce que des fois, il fallait vite démonter le studio parce qu'il allait avoir une descente. Parce que la loi est assez sévère à ce moment-là, en 72. Hein. Le fait d'émettre en France, c'était considéré comme un délit si tu n'avais pas l'autorisation. Tu pouvais risquer jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 100 000 francs d'amende. Donc c'était vraiment assez risqué, mais je pense que ça faisait partie aussi du jeu de ces radios pirates.
Ouais.
C'est pour faire face à cette mouvance qu'en France, on va mettre en place le statut de radio libre à partir de 1981.
Pour canaliser les pirates.
C'est exactement ça. Et alors, ces radios libres ou ces radios pirates, on parlait des mouvements féministes, et évidemment que ça va être un support et un espace d'expression incroyable. Et donc là, on va aller faire un petit tour en Suisse.
Oh non.
Si. On va aller faire un petit tour en Suisse, parce qu'en Suisse, il y a Radio Pleine Lune.
Vous allez voir, ça change l'image de la Suisse. Restez bien à l'écoute.
Ouais, carrément. Alors, Radio Pleine Lune, c'est une émission de radio féministe née à la fin des années 70 qui va émettre hebdomadairement pendant 20 ans. Il y avait une autre émission aussi qui s'appelait Remue Ménage, et là c'était vraiment une prise de parole à contre-courant. Ces deux émissions, elles sont diffusées sur les ondes de Radio Zone au cours des années 80 et 90, et ce sont les féministes qui ont mis à disposition leur émetteur pour faire de la radio. Et ça permet vraiment d'avoir accès à une parole militante, elle donne la parole à des femmes en lutte dans différents secteurs, elle témoigne des actions et des mobilisations. Et on a vraiment un univers, c'est fabuleux, on a un univers sonore qui est propre au mouvement féministe de l'époque. Et ce que je vous propose, c'est peut-être d'en écouter un extrait, parce que comme c'est la Suisse, ils ont mis toutes leurs archives à disposition.
Nous continuons cette revue de presse un peu tutti frutti par des articles que nous avons trouvés dans nos quotidiens préférés, la Suisse, la Tribune, etc., etc. J'espère qu'ils apprécient la publicité gratuite que nous leur faisons et qu'ils nous rendront la pareille. Alors aujourd'hui, on a appris qu'une jeune femme s'est fait licencier en France parce qu'elle refusait de porter un soutien-gorge et qu'elle avait des chemisiers transparents et qu'elle faisait ainsi, selon son patron, baisser les cadences dans l'entreprise. C'est magnifique, voilà une forme de sabotage tout à fait appropriée.
Un extrait de Radio Pleine Lune, et oui, on est de retour de Suisse, Camille. Est-ce que dans ces années-là, en France, on trouve de telles émissions féministes ?
En France, on a l'émission Femmes Libres, hein, qui est un format hebdomadaire centré sur l'actualité féministe, qui va être diffusée entre 1986 et 2012 sur des radios plutôt libertaires. En fait, la pratique féministe de la radio, c'est une histoire foisonnante qui reste presque un peu à écrire. Il faut quand même pas mal encore travailler les archives. Et elles vont vraiment passer ces émissions-là de la clandestinité aux radios libres. Et même cette pratique féministe va inventer une façon de faire de la radio avec des récoltes de témoignages. Et ça a ouvert la voie à des pratiques aujourd'hui devenues hégémoniques dans tous les médias professionnels. Même certaines de ces stations de radio libre vont revendiquer une liberté illimitée. Et là, on pense à la station parisienne Carbone 14, qui a vraiment marqué l'histoire de la radio. Et plus particulièrement, moi je pense à l'émission Poubelle Night, qui était animée par Super Nana. Et là, on a ce principe hein, de radio libre sans filtre. Vraiment, sans filtre. Et quoi de mieux que de vous passer le générique ?
Poubelle Night,
Poubelle Night,
Poubelle Night,
Poubelle Night,
Poubelle Night.
Avec
Super, 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 Super Nana
et David Grossex.
Ah.
Vous êtes flippé.
Oh non, vous êtes toxico.
Vous êtes vieux.
Vous êtes moche.
Vous êtes con.
Vous êtes branche.
Vous êtes alcoolo.
Chamé.
Seul.
Sans femme.
Sans homme.
Sans chien.
Sans rien.
Poubelle Night.
Poubelle Night.
Poubelle Night.
Poubelle Night.
Poubelle Night.
Poubelle Night.
Oh, Poubelle Night.
Avec
Super, 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 Super Nana
et David Grossex.
Poubelle Night, Poubelle Night, Poubelle Night, oh.
Une émission laide.
Une émission sordide.
Une émission horrible.
Une émission vicieuse.
Une émission pleine de cul.
Une émission pleine de sperme.
Une émission pleine de haine.
Une émission qu'on écoute tout seul.
Une émission pleine d'amour.
Carbone 14, la radio qui vous encule par les oreilles.
Oui, c'était un de leurs slogans. Vous avez compris, le sexe constituait le thème principal de ces conversations herziennes et les mots employés étaient volontairement très crus. Alors il y avait d'autres émissions hein, qui ont fait scandale, il n'y avait pas que Poubelle Night, hein. On avait aussi 50 millions de voleurs ou l'autre émission Hardcore, l'amour en direct. Qui a été, alors Carbone 14 a été interdite hein, par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et démantelée dès 1983. Ce soir, on est sur la même longueur d'onde pour vous raconter l'histoire de la radio.
Dans les années 90, le changement, je dirais, c'est pas aller vers des contenus plus crus, mais c'est plus essayer de toucher les jeunes.
Oui, à partir des années 90, ce modèle de la libre antenne, ça va permettre à la jeunesse d'avoir un espace de dialogue, notamment sur les questions de sexualité. En fait, on va avoir des programmes qui vont permettre aux adolescents la possibilité de converser librement et à grande échelle autour de sujets qui les préoccupent. C'était le principe de Standard, hein. T'appelais, tu posais ta question et t'avais un groupe d'animateurs qui répondaient, ou parfois juste tu écoutais ce qui était en train de se passer. Et en fait, ça, c'est vraiment un marqueur générationnel et ça a permis de créer un sentiment d'appartenance à une communauté. Et comme exemple de ces libres antennes, je pense aussi à des radios comme Skyrock ou à Fun Radio avec ses animateurs D-Fool et Le Doc qui vont être les premiers entre 20h et 22h à proposer ces libres antennes aux adolescents. Et cette pratique en fait, d'écoute de la radio par les ados se fait en cachette des parents. L'ado écoute souvent seul ses émissions.
J'ai quand même une image là de Skyrock, on dit première sur le rap, mais souvent les gens qui aiment bien le rap disent ce que Skyrock a fait au rap.
Oui. Enfin,
oui, moi je me dirais ce que Skyrock fait à la radio, tu vois, en termes d'habillage antenne et tout, c'est...
Ouais.
Mais toi, niveau contenu, toi...
Oui, ben moi je pourrais dire aussi ce qu'a fait Skyrock à la sexualité, parce qu'en fait, quand t'analyses, et il y a eu des études, hein, quand t'analyses le contenu en fait de ces libres antennes entre 20h et minuit, hein, c'est très représentatif des années 90, quoi. Le sexisme tendance, la culture du viol, la question du consentement, elle n'est jamais abordée. Dans l'équipe, tu n'as souvent qu'une femme, qui est un peu le principe de l'effet schtroumpfette, c'est-à-dire qu'elle est mise en scène par des hommes ou qu'elle sert de bonne copine, ou elle va être là uniquement pour répondre aux questions des auditrices, en fait.
Ou juste servir de faire valoir, enfin, l'animateur.
Exactement.
Mais en fait, d'ailleurs, il n'y a pas que Skyrock, il y a Fun Radio, il y a Energy, on va les citer, toutes ces radios,
oui, oui,
les
oui.
Vraies radios poubelles.
Oui, c'est ça.
I could eat that girl for lunch. Yeah, she dances on my tongue. Tastes like she might be the one. And I could never get enough. I could buy her so much stuff. It's a craving, not a crush. Call me when you're there. I said I'll buy you something rare. And I left it under clear. So now she's coming up the stairs. So I'm pulling up the chair.
écoutez Billie Eilish, Lunch, et vous écoutez Cosette de Boudoir qui vous parle de l'histoire de la radio.
Tu nous parles de la radio depuis les années 90.
Alors on l'a vu, hein, c'est des années qui vont voir la multiplication des stations privées, publiques et associatives. Et cette période-là va permettre aussi, en parallèle à l'évolution de la société française, va permettre aux professionnels de la radio d'accéder en nombre à des postes, à accéder à tous les postes et avec le développement d'Internet aussi aux services web. Au tout début, notamment dans les radios privées, elles vont pas être à la barre de leur propre émission. Elles vont plutôt co-animer avec des hommes, mais au fur et à mesure, elles vont vraiment s'emparer de tous les domaines et ne plus être cantonnées à certains types d'émissions ou à certains créneaux. Elles vont avoir des postes à responsabilité. Et là, on va vraiment avoir une nouvelle génération de professionnels plus nombreuses à l'antenne et dans la production d'émissions. On a des journalistes qui deviennent de très grands reporters, qui couvrent pour la radio les conflits à l'étranger, notamment dans les zones de guerre. On va avoir aussi des animatrices et des productrices qui vont inventer aussi des nouvelles émissions. Par exemple, des émissions comme Les Petits Bateaux, ça a été inventé par une femme, c'est Noël Bréham sur France Inter qui va créer ce type d'émission. Moi, je pense aussi à Pascal Clark qui va un petit peu réinventer la façon de faire du reportage et d'aller à la rencontre des gens. Ou carrément Arlette Chabot, qui va être une des toutes premières à pouvoir animer des journaux matinaux et à diriger des services politiques à la radio.
Ah, elle n'est pas vraiment fipette, Arlette Chabot.
Non, pas vraiment. Alors, c'est vrai qu'il y a un métier, c'est celui de morning woman ou de matinalière, qui va longtemps résister aux femmes. Et puis, finalement, elles vont aussi s'emparer de ce créneau-là de la matinale. Et ça, c'était dû à un préjugé qui a duré très, très longtemps dans l'histoire de la radio et qui, je pense, continue d'être véhiculé. En fait, c'est un vieux mythe de la voix radiophonique idéale qui doit être grave et masculine. Et ça, c'est encore répandu aujourd'hui. Mais c'était dès le début.
Le laboratoire Bell concluait au fait que les voix des femmes sont incompatibles, pour les micros notamment.
Ouais, non mais ouais, n'importe quoi. Et c'est même des fois intégré par les femmes qui n'hésitent pas à moduler leur voix avec la technique du vocal fry ou de la friture vocale, c'est-à-dire parler un petit peu plus grave que ta voix habituelle. En fait, on va le dire tout de suite, hein, en radio, ce n'est pas une question de timbre de voix. La preuve, enrhumée, j'ai une voix dégueulasse et pourtant je vous parle.
Oui, mais c'est parce qu'on est au 21e siècle, Camille, t'aurais pas pu à 30 ans faire ça.
Mais en fait, c'est surtout une question d'empathie, de capacité d'écoute et d'expression. En fait, il faut juste être capable de parler aux gens, de les intéresser et d'imaginer une conversation avec eux et elles pour que ça fonctionne.
On n'a pas trop évoqué la radio comme vraiment aspect de résistance.
Et de soutien. C'est vraiment un outil de résistance et de soutien. On l'a vu notamment avec cette association qui, depuis 1951, regroupe et rassemble les femmes du secteur de la radio, mais aussi de la télévision. Et c'est un réseau mondial qui est composé de 54 pays et qui met vraiment l'accent sur l'égalité des genres et qui s'emploie à soutenir et améliorer le rôle et la participation des femmes dans les médias et dans la communication. On a des radios de résistance, je pense notamment à la radio Roshani, qui est une radio au nord de l'Afghanistan et qui est gérée par des femmes et qui continue d'émettre, en fait, malgré tous les conflits qui peuvent se dérouler sur ce territoire-là. On a aussi la radio Raquel, qui a été créée en octobre 1982 à Oslo, qui se présente vraiment comme la première station de radio féministe au monde. Elle s'est donnée pour mission de former les femmes dans tous les domaines, que ce soit du journalisme à l'ingénierie du son. Et notamment, il y a beaucoup d'interviews de femmes par de femmes et la musique de l'antenne doit être composée ou interprétée au moins pour moitié par des femmes. Comme dans Cosette de Boudoir. Les stations de radio communautaires offrent également un espace important pour l'autonomisation des femmes. Ça constitue une alternative à la radio publique et commerciale. Et ça permet aussi de se mettre au service des communautés locales. Et donc là, TAFM FM, qui est la première radio britannique destinée aux femmes, qui date de 1992. Et là, c'est vraiment un espace communautaire de représentation, de participation et de résistance.
Il faut qu'on évoque le monde du podcast. Je suis très attachée au flux radio, mais bon, quand même, le podcast, c'est le bouleversement majeur dans le monde de la radio ces derniers temps.
Oui, et le monde du podcast s'inscrit véritablement dans cette tradition de confidence et d'entraide féministe, en fait. Alors, ça peut être féministe ou féminin, mais en tout cas, ça donne la parole aux femmes, qui n'est pas toujours majoritaire dans les médias traditionnels. Et on le voit dans cette pléthore d'émissions et de podcasts qui se revendiquent du féminisme, qui permettent une prise de parole nouvelle et surtout qui marquent la fin d'une invisibilisation du travail des femmes dans ces médias-là. Ces podcasts aussi, ça a permis d'avoir une approche plus intersectionnelle, c'est-à-dire on y défend les femmes, mais aussi des personnes racisées, les minorités de genre, il y a souvent des approches aussi sociales. Il y a vraiment cette idée de notion de safe space, c'est-à-dire t'as pas d'interruption, pas de haters, donc ça fait un espace d'expression qui peut être très très libre, en fait. Alors, on va pas citer tous les excellents podcasts aujourd'hui qui sont réalisés, mais on a aussi, alors certes, il y a des podcasts, mais carrément aussi maintenant, on trouve des plateformes en fait qui regroupent toutes ces émissions féminines et féministes, comme la plateforme Radio Rageuse qui a été créée en 2009.
Et on va le dire quand même que les plateformes, elles se gavent bien au détriment des productrices et des créateurs et des créatrices de contenu, quoi.
Oui, les grosses plateformes. Et puis ces dernières années aussi, on a vu la naissance de festivals de radio. Et là aussi, ça permet de présenter de l'audio sous toutes ses formes et dans tout ce que ça a de plus vivant. Donc pour conclure, on peut dire que le rôle joué par les femmes à l'antenne ou comme auditrices jette une lumière nouvelle en fait sur l'histoire de ce média. Se pose véritablement la question des archives, et notamment des archives sonores, pour retracer cette histoire des femmes à la radio. Cette émission a été préparée avec la sagesse d'une femme de radio de Chris Graffiti, Grâce à ma voix de Simone Hérault, Quand la radio habite la nuit de Marine Beccarelli, Les anonymes à la radio, usage, fonction et portée de leurs paroles de Christophe Deleu, Le moment radiophonique des adolescents d'Hervé Cléverac et L'heure des femmes d'Adèle Bréau.
Merci Camille. Tu vas mettre ton casque?
Je vais retrouver mes auditorices dans mon boudoir.
Très bien, bonne nuit à toi.
Bonne nuit Hélène.